9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Je reçois ce matin Christian Salmon, l'auteur de Storytelling, qui publie aujourd'hui La tyrannie des bouffons, c'est sur le pouvoir grotesque. Je recevrai ensuite deux sociologues, Claudine Attias-Donfu et Martine Segalen, pour leur enquête à paraître mercredi prochain, Avoir 20 ans en 2020, le nouveau fossé des générations. Et l'on terminera cette émission avec Pierre Kasounoguès, l'auteur de Virusland, probablement le meilleur livre de la rentrée sur le confinement. Bonjour Christian Salmon, merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Après Storytelling en 2007, La cérémonie cannibale en 2013, L'ère du clash en 2019, voici La tyrannie des bouffons qui paraît au lien qui libère. C'est un livre sur la phase ultime de la décomposition du politique, ce que vous appelez le pouvoir grotesque. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'abord ?
Oui, il y a une kyrielle de dirigeants, de nouveaux dirigeants depuis 4 ans qui sont apparus. Évidemment, on parle beaucoup de Trump, mais il y a Bolsonaro, il y a Boris Johnson. Tous ces dirigeants, le premier ministre en Inde, Modi, etc., qui se sont, à la faveur de l'épidémie du coronavirus, se sont manifestés sous des critères un peu semblables, c'est-à-dire d'abord le déni de l'épidémie, le refus de reconnaître la gravité du mal. Ensuite, toutes sortes de mesures irrationnelles ou un peu fantaisistes qui ont été prises pour lutter contre la pandémie. Et donc, c'est à cette occasion, je me suis dit qu'on avait trop tendance à faire de la satire, c'est-à-dire à critiquer, à se moquer de ce pouvoir grotesque, sans voir qu'en fait, il avait peut-être une rationalité, une sorte de rationalité paradoxale, puisqu'il s'agit d'exercer le pouvoir en affichant son incompétence, en affichant son irrationalité. Et je suis tombé sur ce texte de Michel Foucault, qui est extraordinaire, parce qu'à l'époque, il n'avait pas, lui, ses dirigeants grotesques sous les yeux, donc il s'inspirait un peu d'exemples du passé, comme... ou soit des fascistes, Mussolini, Hitler, soit des dirigeants de la République romaine, etc. Et qui disait, en fait, le secret du pouvoir grotesque, c'est qu'il s'exerce non pas en dépit de l'irrationalité du dirigeant ou de son incompétence affichée, mais grâce à cette incompétence. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque vous avez en face de vous un dirigeant qui revendique le pouvoir grotesque, un peu à la façon de Trump, qui peut se contredire d'un jour à l'autre, qui peut faire trois tweets contradictoires à la suite, au fond, vous affichez quoi ? Vous affichez une sorte de pouvoir absolu, c'est-à-dire que votre pouvoir ne relève pas de la fonction. Vous avez été élu président dans le cadre d'une constitution, avec des lois, des limites, etc. Non, votre pouvoir s'inspire uniquement de vous-même, vous le tenez que de vous-même. Et donc, d'ailleurs, Trump l'a dit à plusieurs reprises, je peux faire ce que je veux. Y compris contester le résultat des élections.
Oui, puisque vous dites que ce sont en fait... ils abandonnent la majesté du pouvoir, celle à laquelle on était habitué, pour revêtir les habits du bouffon. Ce sont les figures, dites-vous, du discrédit qui frappent le système politique. Au fond, les bouffons peuvent ridiculiser le pouvoir en toute impunité. C'est même pour cela qu'on les élit. Pour ridiculiser toutes les institutions politiques, médiatiques, scientifiques ou religieuses. C'est à ça que servent les Donald Trump, Bolsonaro, Rodrigo Duterte aux Philippines, Matteo Salvini, que vous citez également, et Beppe Grillo. Pas Berlusconi d'ailleurs. Pourtant, les Français, nous le voyons comme ça.
Vous avez raison. Berlusconi a sans doute été le premier, avec Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, en France, a incarné ce pouvoir grotesque. Mais il le faisait avant les réseaux sociaux. C'est-à-dire, de même que Trump, c'est l'immobilier plus la télé-réalité, Berlusconi, c'était aussi l'immobilier et les chaînes de télé, les starlets, etc. La chose, ce que vous dites est très important, parce que on a tendance à considérer que ce sont des accidents de l'histoire. C'est-à-dire que Trump, l'élection de Trump va être effacée, il ne sera pas réélu, etc. Et on oublie de comprendre la rationalité de ce genre de pouvoir. Alors vous parlez de discrédit, c'est ça qu'on oublie tout le temps, qui fait que ces figures-là ont des précédents dans l'histoire, mais sont quand même uniques parce qu'ils s'inscrivent dans un contexte. Ce contexte, c'est les réseaux sociaux, la révolution numérique, mais surtout la révolution du capitalisme et la crise du capitalisme depuis 2008 qui a ruiné tout le storytelling des gouvernements néolibéraux. Hein, et donc, qui a alimenté ce que j'appelle la spirale du discrédit. C'est-à-dire que depuis 2008, en gros, tout le monde y passe. Les journalistes, les hommes politiques, maintenant avec le coronavirus, les personnalités médicales, les autorités hospitalières. C'est-à-dire qu'on ne croit plus en rien.
Vous dites au fond que Donald Trump et les autres disent la vérité de notre époque. Au fond, Donald Trump n'est pas grotesque malgré lui, comme l'était peut-être Mussolini autrefois, ou Bolsonaro peut-être aujourd'hui, là c'est malgré lui. Trump, lui, il le fait exprès, au fond, c'est ça. Trump, il veut être comme il se montre, parce que c'est ça, au fond, qui crée la fidélité que lui montrent ses électeurs.
Ben oui, parce que quand même, il faudrait qu'on explique pourquoi, après toutes ces dérives, après tous ces excès, il continue à avoir une base électorale au minimum de 40%, qui n'est jamais descendue en dessous de 40%. Et je pense que c'est ça, c'est cette figure paradoxale. Parce que vous vous souvenez, quand il est élu, on a son entourage, les journaux, les médias mainstream, comme on dit, New York Times, etc., disaient, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se présidentialiser? Pas du tout. Il a même voulu continuer son émission de télé-réalité tout en étant président. Et je pense que le pourquoi il fait ça, la raison de ça, c'est qu'il est le vecteur, le porteur du discrédit. Je l'ai même appelé le banquier du discrédit. C'est-à-dire qu'il transforme la colère populaire en une sorte de jeu. Et ces gens-là, qui sont dans la spirale du discrédit, ont l'impression d'avoir à la Maison-Blanche, leur représentant, pour la première fois.
Mais ce qui est étonnant, quand on vous lit, Christian Salmon, vous venez de parler de Jean-Marie Le Pen, qui, lui, n'a jamais été au pouvoir. Mais c'est qu'il n'y a pas de Français. Vous ne parlez pas des Français. Comme si cette maladie, cette tyrannie des bouffons, on était miraculeusement épargnés.
Non, on n'est pas épargnés. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de figure politique centrale qui, pour le moment, est incarné. Alors que dans tous les autres pays, Hongrie, Italie, je parle des pays européens, on a ces bouffons au pouvoir maintenant. Alors, ce qu'on peut constater en France, pourquoi? D'abord parce que je pense qu'il y a le syndrome familial Jean-Marie Le Pen-Marine. C'est-à-dire que Marine Le Pen, depuis son accession à la tête du Front National, puis du Rassemblement National, a tout fait pour des raisons psychanalytiques peut-être, se détacher de la figure du clown, se légitimer. C'est-à-dire qu'elle a fait exactement le chemin inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle s'est décloonisée, débouffonisée, essayant d'incarner un pouvoir sérieux, etc. Donc ça, c'est un facteur aussi. Mais on l'a vu lorsque Steve Bannon, le stratège de
Donald Trump.
Ouais, de Donald Trump, est venu au congrès du Rassemblement National. On voyait bien qu'il y avait, il disait aux militants qui étaient présents, mais vous êtes raciste, mais soyez-le, soyez fiers de l'être, alors que Marine Le Pen a dit, essaie de se détacher de ça. Par contre, donc il y a ce premier point. Cette partie du spectre politique aurait pu faire émerger une figure de bouffon. Pour les raisons que je viens de dire, ça n'a pas été possible. Par contre, je pense que c'est la scène. Ce qui est commun aux autres pays, c'est qu'on vit la même spirale du discrédit. Je voudrais prendre un exemple avec ce qui s'est passé pendant le coronavirus, où on a vu une figure comme celle de l'épidémiologiste marseillais Raoult, dont je ne dis pas qu'il est un bouffon, mais je constate simplement que pour un expert qui a peut-être quelques titres à faire valoir, hein, moi je le mets pas en question là-dessus, mais je constate simplement que toutes ces interventions pendant le confinement, pendant la crise du coronavirus, étaient des interventions de discrédit. Discréditer les autres scientifiques, discréditer les autres épidémiologistes, discréditer le monde pharmaceutique, les intérêts, les lobbies, tout ce monde obscur qu'il a dénoncé, qu'il a mis voilà, et ça explique un peu l'engouement pour ce personnage, parce que il est lui-même vecteur de discrédit.
Ce que vous expliquez, Christian Salmon, dans La tyrannie des bouffons, c'est que les masses, et c'est pas très gentil, mais les masses n'ont qu'une puissance de rejet. Ça n'est jamais en adhérant à un projet positif qu'elles sont les plus fortes. Et au fond, quelqu'un comme Donald Trump joue les héros négatifs. Il est bien plus rassembleur en étant négatif, en discréditant, que en disant on va se réunir, on va s'aimer et on va résoudre le problème.
Ben ça, c'est la chose qui m'est apparue pendant la campagne de la dernière campagne électorale de 2016, parce que je la suivais pour un journal français, et j'ai abordé cette campagne de 2016 avec mes outils classiques. Quel récit raconte Trump? Quel récit raconte
Clinton? Le storytelling.
Voilà, on voyait bien que Clinton, c'était le retour à la maison, le retour aux années Clinton, etc. Mais devant Trump, j'étais stupéfait parce que je me disais, mais il raconte pas une histoire. C'est-à-dire, si je le compare à Obama en 2008, quel que soit ce qu'on pense des résultats de ces deux mandats, hein, je dis pas que... Mais en tout cas, la campagne d'Obama en 2008, elle est basée sur quoi? Sur le crédit. Puisqu'il dit un changement dans lequel on peut croire. Quand Trump arrive, il est complètement... Alors, c'est pas un changement dans lequel on peut croire, c'est un discrédit que l'on pourra affirmer et que je représente et que je reprends à mon compte et que j'exemplifie par toutes sortes de... Donc ça explique un peu ce comportement bouffonnesque ou grotesque, parce que c'est comme le carnaval. Hein, le carnaval est la forme, je dis souvent, la vie politique est en train de se carnavaliser. Parce que le carnaval est la forme de l'inversion du haut et du bas, du discrédit de toutes les figures d'autorité. On élit un roi du carnaval ridicule. Sauf qu'avec Trump, c'est un carnaval par le haut, pas par le bas.
C'est pas un carnaval. Et puis c'est toujours le jour des fous, disent les adversaires de Trump. Au fond, Donald Trump et tous les bouffons dont vous parlez dans votre livre n'arrivent pas tout seuls. Vous dites qu'ils disent la vérité de notre époque, c'est aussi parce qu'ils y sont aidés. Au fond, toute la télé-réalité est basée là-dessus, sur l'élimination, sur le rejet, sur le fameux « vous êtes viré ». Qu'a asséné Trump pendant 10 ans dans son émission de télé-réalité ou celle qu'il animait, le The Apprentice. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux, au fond, l'irrationalité, la transgression, la bouffonnerie. C'est sur les réseaux sociaux qu'on peut en toute impunité l'incarner et l'appliquer.
Ben, c'est une combinaison, c'est un combo bizarre entre télé-réalité et réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pas en tant que tels, mais les réseaux sociaux, disons le business model, les réseaux sociaux comme business model, c'est-à-dire que ce sont les mises, en raison même de cette spirale du discrédit dont on parlait, ce sont les messages négatifs qui ont le plus de chances d'être retweetés, qui indignent, qui mobilisent les foules, etc. Et en plus, avec le mécanisme des GAFAM et des algorithmes, ce n'est même plus quelqu'un qui choisit les messages qu'il faudrait répercuter. Ça se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de bulle du discrédit où les messages transgressifs sont plus importants que les messages positifs.
Mais... Pardon de vous interrompre.
Non, non.
Où ça va s'arrêter, Christian Salmon?
Je pense que pour le moment, on creuse cette spirale. On n'en voit pas le fond.
Parce que toutes les crises, en plus, s'ajoutent. Que ce soit la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, mais nous, on a le terrorisme, il y a la crise climatique, il y a la crise économique. Ça ne s'arrêtera jamais, ça va aller de mal en pis.
Il y a une hypercrise qui mobilise à peu près tous les niveaux d'activité, tous les niveaux de référence. Mais moi, je voudrais juste rappeler une chose, une scène qui est lorsque Trump est hospitalisé. Des petits détails. Il se fait photographier pour montrer qu'il n'est pas à terre, qu'il est là. Ensuite, il signe un papier qui est blanc et il le fait ostensiblement. Ensuite, il fait un tour de l'hôpital en voiture, un truc absolument démentiel, sans aucune finalité. Il ne prend même pas la peine de dire, les médecins auraient pu dire, bon, on l'a fait sortir un peu, qu'il en avait besoin. Non, non, c'est juste pour saluer. Et donc, on a là la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on est dans l'univers du faux. Il ne cherche même pas à crédibiliser ce comportement transgressif, parce qu'au fond, c'est la transgression qui fait loi.
Christian Salmon, merci d'avoir été ce matin en direct avec nous sur Europe 1. La tyrannie des bouffons vient de paraître au lien qui libère.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Claudine Athias-Donfus, vous êtes sociologue. Martine Segalen, vous êtes sociologue et ethnologue. Et toutes les deux, vous publiez « Avoir 20 ans en 2020 », « Le nouveau fossé des générations ». Ça paraît mercredi chez Odile Jacob. Le président de la République vous a fait de la publicité en reconnaissant lors de son interview télévisée il y a 2 semaines que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 et ajoutant qu'il ne voulait pas leur faire la leçon à ces jeunes parce que ce sont eux qui vivent un sacrifice terrible, a-t-il dit. Il a raison d'ailleurs, parce que quand on lit votre livre, je veux dire par là qu'il a raison de ne pas vouloir leur faire la leçon, ce sont les premiers, ces jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ne s'opposent ni ne se réfèrent à leurs aînés, dites-vous, ils se définissent tout simplement en dehors d'eux et entre soi. Au fond, ils n'ont que faire des savoirs des générations précédentes, et notamment la génération du président de la République.
Oui, c'est la génération de leurs parents. En fait, c'est une génération horizontale, qu'on a appelée horizontale, parce qu'ils vivent aussi à travers les réseaux sociaux. Et ils établissent des relations avec les membres de leur génération, avec leur père, et d'autant plus facilement qu'ils ont eu une éducation extrêmement tolérante, permissive. L'éducation d'ailleurs que leurs propres parents ont eue, une éducation qui est orientée vers le développement de l'enfant et l'acquisition de l'autonomie. Donc il y a beaucoup moins d'autorité dans le sens de l'autorité forte, et il y a moins d'autorité morale aussi du savoir et de l'acquis des générations antérieures.
Oui, en fait, on a bien vu à travers l'enquête qu'on a faite, puisqu'elle est basée sur 600 questionnaires auprès d'étudiants, et j'ose dire un mot, un des professeurs qui nous a aidés dans cette enquête est Christophe Capuano, par hasard, qui est donc cet ami de ce malheureux professeur qui vient d'être assassiné. Et donc, on a bien vu à travers cette enquête que les réseaux sociaux, ces jeunes qui ont 20 ans, les pratiquent depuis leur plus tendre enfance. Ils sont nés avec Internet dans la main, et donc les savoirs de leurs parents leur paraissent complètement obsolètes. Et en plus, et on les comprend d'une certaine façon, ils n'ont plus rien à dire à la génération au-dessus d'eux, parce que la génération au-dessus d'eux, c'est elle qui est, c'est nous. Qui sommes très vieilles d'ailleurs, et les plus jeunes, qui sommes responsables de ce dont ils héritent, c'est-à-dire du réchauffement climatique, qui était leur principal souci quand on a commencé ce travail, qui était avant le Covid. Et puis, on se posait avec Claudine la question de se dire, est-ce que c'est une génération ? Et on disait, c'est trop tôt pour le voir. Mais maintenant, c'est pas trop tôt. On voit bien que c'est la génération Covid qui est affrontée à des difficultés dont on n'aurait peut-être pas parlé s'il n'y avait pas eu le Covid, où ils pouvaient être mis sur des rails. Maintenant, toutes les difficultés, c'est eux qui ont à les prendre en charge et à penser notre futur.
Alors c'est vrai que cette génération, ce n'est pas un tout cohérent, hein, comme toutes les générations d'ailleurs, mais elle est fondée au fond par les événements auxquels elle doit faire face. Donc elle s'est fondée face à Internet, elle est née avec, face à la crise climatique, et puis face au coronavirus, ce sont au fond des marqueurs générationnels. On pourrait aussi ajouter le terrorisme au fond, puisqu'ils sont nés autour de l'an 2000, on se souvient que le 11 septembre c'était en 2001, mais il y a évidemment les attentats du 13 novembre, où ils étaient un peu visés.
Oui, hein, mais dans notre questionnaire, ils y font tout à fait référence au terrorisme, et même certains citent des événements qu'ils ont vécu tout bébé, si vous voulez.
Et là, l'assassinat de ce professeur, d'une certaine manière, ils se sentent visés indirectement, parce que c'est un professeur, ça marque tous les élèves d'une génération, mais on pourrait dire qu'avant cela, il y avait eu Mohamed Merah s'attaquant à une école.
Hein. Oui, donc c'est une génération marquée par un changement aussi de civilisation. On arrive à la civilisation numérique, mais en même temps, ils ne forment pas du tout une génération unifiée. Il y a une telle diversité. On a parlé, on a utilisé le terme de génération en grumeau, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tendances qui s'expriment et qui s'ignorent un peu les unes les autres. On le voit dans le rapport à l'information, dans le rapport à la liberté d'expression et à la liberté de conscience. Ils y sont moins attachés, pour un certain nombre d'entre eux, que leurs aînés.
Et puis, j'ajouterais, Claudine, tu ne peux être que d'accord, évidemment, que c'est une grande diversité liée à des inégalités, d'ailleurs dont on a vu que le Covid ne fait que les renforcer. C'est-à-dire que notre enquête porte sur des étudiants, mais il y a ceux, d'ailleurs, dont les conditions d'études sont différentes, si les parents sont derrière eux ou pas. Il y a ceux qui ne font pas d'études, et ça crée évidemment des rapports sociaux tout à fait différents en sein de groupes de jeunes qui peuvent être tout à fait épaulés par la famille, et puis d'autres qui sont complètement laissés en plein dénuement, et on en a vu de nombreux cas au cours du confinement notamment.
Oui. Je voudrais rajouter ce que nous avons beaucoup développé avec Martine, c'est le paradoxe générationnel, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes relations entre les générations, un lien affectif, une solidarité qui ne se dément pas et donc qui coexiste avec cet affaiblissement de la transmission.
C'est oui,
un
c'est
paradoxe
ça. En
générationnel.
Fait, ils en veulent un peu à leurs aînés de ne rien y comprendre. Hein. Ils ont décidé d'apprendre par eux-mêmes. Ils ne comptent que sur eux. C'est le côté hockey boomer. T'appartiens à un ancien monde. C'est pas la peine de m'apprendre à comment vivre dans le mien. Et en même temps, ils s'entendent très bien avec leurs parents et avec leurs grands-parents.
Oui, absolument. Et c'est un paradoxe. Encore faut-il que la famille soit derrière, évidemment, et puisse le faire. Mais leurs affiliations premières, et ça c'est dès l'âge de 14 ans, 13 ans, c'est les affiliations amicales et l'apprentissage de ce côté-là. Et tout en s'entendant bien avec les parents, on a vu aussi qu'il y a des intransigeances familiales de certains jeunes, par exemple, avec une certaine violence. Ah, les parents veulent manger de la viande, quelle horreur, ah, et on écoute telle ou telle blague d'il y a 20 ans. Alors là, c'est complètement machiste, etc. Ah, tu n'es pas pour la GPA, alors là, t'es complètement ringard, t'as rien compris. Il faut ajouter, je dirais, qu'il y a, sur ces questions d'homophobie et d'homoparentalité, ou d'homosexualité en général, c'est complètement passé dans la nouvelle génération.
Oui, oui. Vous venez de nous le dire, au fond, c'est une génération sans concession. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins tolérants? Sur le plan politique, sur le plan religieux aussi.
Exactement. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent dans nos questionnaires. Ils disent qu'il y a une absence de tolérance dans leur génération. Il y a des anathèmes, et avec leurs parents aussi. Par exemple, reprochant à leurs parents d'aller voir J'accuse de Polanski.
Ou de manger de la viande, comme disait Martine Segalen.
Ou manger de la viande, oui. Donc, c'est en ce sens qu'il y a une certaine intolérance que l'on observe aussi actuellement dans les universités. On a vu beaucoup d'exemples de censure à cause de ce développement des théories racialistes, décoloniales et la censure pour des pièces classiques.
Cela dit, la génération de mai 68, au plus fort de sa vigueur, n'était pas très tolérante non plus.
C'est le contraire, justement. Alors on écrit que pour la génération de 68, il était interdit d'interdire. Tandis que pour cette génération, c'était l'inverse.
Vous êtes pas d'accord.
Il est interdit d'autoriser. C'est-à-dire interdit d'autoriser, alors que pour 68, au contraire, c'était la tolérance totale. Il est interdit d'interdire.
Pourtant, sur le plan politique, on sait qu'il vote de moins en moins. Et sur le plan religieux, il pratique aussi de moins en moins.
Bon, ça dépend quelle minorité, pour parler quand même clairement, les musulmans sont les plus investis, on l'a montré.
Ils pratiquent plus que les autres religions.
Ah, beaucoup plus, évidemment.
Oui, et plus que leurs parents. Oui.
Et sur le plan politique, alors, en nous appuyant sur les travaux d'Anne Muxel et Olivier Galland, on a bien montré que ça ne veut pas dire qu'ils soient dépolitisés, mais simplement les formes politiques actuelles ne les intéressent plus. En même temps, toujours avec les réseaux sociaux, il y a cette espèce de mouvement du LOL. On se moque de tout, tout est cynique, tout est rabaissé au même niveau. Et alors, donc, ils cherchent d'autres formes d'expression. C'est pourquoi, par exemple, le mouvement de la jeune écologiste a eu tellement de succès.
Greta Thunberg.
En mettant des lycéens dehors, avec d'ailleurs, pour une fois, l'accord des parents, si vous voulez. Mmh. Mais on ne peut pas dire qu'ils soient dépolitisés. Ils sont au contraire extrêmement inquiets de la situation.
Absolument.
Mais ce n'est pas avec le système politique qu'on a qui pensent pouvoir se débrouiller.
Et ils sont prêts à s'engager. En fait, ils sont très engagés. Mais ils n'ont
pas... Mais sur le terrain.
Voilà, sur le terrain.
Alors justement, dans votre livre, revenons-en, vous parlez beaucoup du confinement et des conséquences que cette pandémie peut avoir sur cette génération. Or, les conséquences sont très différentes selon les générations. Que l'on ait 20 ans, 40 ans ou 60 ans aujourd'hui, ça n'est pas exactement la même chose. Vous dites que la pandémie, ils vont la voir en partage. Ces fondateurs, ils ont plus souffert, au fond, de ne pas se voir que toutes les autres générations. On aurait pu s'attendre à ce que cette génération née avec des écrans se vive très très bien. Le confinement, après tout, on continue de se parler par écran interposé. Mais en fait, pas du tout. Ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de sortir.
Oui, mais ça fait partie quand même complètement de la culture de cet âge-là. C'est pas à 50 ou 70 ans qu'on va sortir après avoir travaillé toute la journée. 70 ans, en principe, on ne travaille plus. Mais par exemple, des étudiants, dans la culture étudiante, sortir ensemble après les cours ou quitte à sécher les cours pour sortir ensemble, ça fait évidemment partie de ces années-là fondamentalement. Et ça a été certainement très dur pour eux. Et on voit maintenant qu'il y a une espèce de couvercle qui a été soulevé avec des conséquences qui sont un peu lourdes.
Vous dites également qu'ils sont tous très au fait des inégalités sociales, des inégalités économiques, des inégalités culturelles qui traversent la société. Ils savent que ça commence jeune et que les conséquences se font sentir pour le reste de la vie. Vous dites que c'est une génération post-matérialiste. Qu'entendez-vous par là ?
C'est une génération qui recherche d'autres valeurs que celles de la consommation, de l'accumulation des richesses, et qui remet en question finalement toute cette évolution qu'a apportée la société industrielle et la société post-industrielle. Ils se rendent compte qu'on est dans un changement radical de civilisation. C'est un peu inquiétant, il y a une quête d'autres valeurs. C'est en ce sens qu'il y a... Mais le post-matérialisme est déjà apparu dans la génération précédente.
Mais comment ça va se traduire ? Là, on sait bien que ça va être encore plus difficile pour eux de trouver du travail suite à la pause que nous avons mise sur l'activité économique et la difficulté qu'il y a avec la reprise. Comment ça se traduit dans leur rapport au travail et à l'emploi ?
Bon, écoutez, c'est difficile de dire ça parce qu'il faudrait revenir dans quelques années pour pouvoir faire un bilan. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils veulent mettre du sens dans le travail qu'ils vont faire. Et on a rencontré plusieurs exemples à travers différentes études sur des écoles d'ingénieurs, par exemple, où finalement, il y en a un certain nombre qui abandonnent une carrière qui leur apporterait beaucoup d'argent pour faire quelque chose autour de la permaculture, autour de l'agriculture, etc. Et donc, il y a ce désir-là. Maintenant, on verra dans quelle mesure ça se heurte aux difficultés du marché quand le marché de l'emploi redémarrera.
Parmi les difficultés du moment aussi, il y a le fait qu'ils ne peuvent plus s'expatrier. Or, ils sont plus promptes à l'expatriation que l'étaient les générations précédentes.
C'est une génération cosmopolite.
C'est l'auberge espagnole.
C'est l'auberge espagnole.
Bien que le film ait une vingtaine d'années même.
Et puis c'est une génération européenne aussi.
Internationale. Ils vont faire des stages en Thaïlande, comme nous on allait à Asnières,
oui,
à la limite.
Oui, elle a été formée par la globalisation, oui. Assez dit.
Avoir 20 ans en 2020, le nouveau Fossé des générations, c'est signé Claudine Attias-Donfu et Martine Segalen et ça paraît mercredi prochain aux éditions Odile Jacob.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On s'attendait à ce que la rentrée littéraire soit pleine de romans et de journaux intimes sur le confinement. Eh bien non, il n'y en a eu très peu, pas terrible en plus. Sauf un, Virusland, écrit par un philosophe. Bonjour Pierre Kasounoguès, vous êtes l'auteur de Virusland, qui est paru aux éditions du Cerf. Alors personnellement, je trouve que c'est un livre formidable, entre 1984 et le film Brasil de Terry Gilliam. Vous avez réussi à trouver le ton juste pour raconter ce qui nous est arrivé à partir du mois de mars. Comme nous sommes tous entrés brusquement dans Virusland, l'étrange est soudain devenu banal, écrivez-vous, tout en restant étrange.
Bonjour, merci. Oui, effectivement, je pense que c'est la première chose qui m'a frappé, c'était l'impression de me trouver dans une sorte de dystopie, un film fantastique et que cette impression jouait pour une grande part dans l'inquiétude. C'est-à-dire, certes, il y a toujours la peur du virus, la peur raisonnable de la maladie, mais aussi une angoisse en fait indéterminée qui tient à cette sensation de se trouver dans la fiction, dans un mauvais film, ou un bon film d'ailleurs.
Virusland, c'est un monde où l'on entend un médecin à la radio qui déconseille aux auditeurs de nettoyer les fruits, les légumes, la viande à l'eau de Javel.
Ça a beaucoup été fait, surtout après que Donald Trump ait suggéré de s'injecter du désinfectant. J'ai pendant toute cette période beaucoup écouté la radio et nos conversations chez les commerçants et pour déceler des symptômes d'une inquiétude étrange. J'ai été beaucoup frappé par une conversation que j'ai entendue dans la rue où une dame disait « Moi, quand je mange une mandarine, je me lave les mains. » Je l'épluche et je me relave les mains. Et en fait, je pense qu'elle a raison, qu'effectivement, il pouvait y avoir du virus sur la peau de la mandarine, mais c'est quand même ça relève du trouble du TOC, du trouble compulsif obsessionnel.
Oui, mais c'est ça qui est formidable dans votre livre, c'est que vous n'êtes pas du tout contre le confinement, vous n'argumentez pas contre le confinement, simplement vous décrivez la forme de vie qui est apparue avec le confinement, les interrogations qui sont nées avec le confinement, qui ont l'air absurdes dans une autre logique que celle de Virusland, mais dès l'instant où on est dans Virusland, ces questions se posent.
Oui, oui, tout à fait. Mon but n'est pas du tout de critiquer le confinement, mais plutôt de le mettre en question et de l'interroger. C'est-à-dire, pour critiquer le confinement, il faudrait suggérer que ce n'était pas la meilleure stratégie. Il faudrait être à la fois médecin et sociologue. Et en gros, personne ne l'est. Les médecins eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Les conséquences sociales du confinement n'ont pas non plus été mesurées. Donc, en fait, personne ne peut dire si le confinement était justifié ou non, si c'était la meilleure stratégie ou non. Ce qui m'intéresse, c'est que sur des bases scientifiques incertaines, l'État a décrété et nous avons accepté une restriction drastique de nos libertés. Et voilà, c'est d'interroger pourquoi nous en sommes arrivés là, comment nous en sommes arrivés là, ce que ça dit de l'exercice du pouvoir aujourd'hui, de notre société et de nous-mêmes, de nos peurs. Et donc, il s'agit d'interroger le confinement, mais pas de le critiquer.
Et de décrire la forme de vie qui s'est propagée en même temps que le confinement et qui s'est propagée comme le virus, hein, de pays en pays.
Oui, en fait, le moment où j'ai décidé d'écrire le livre, c'est au début du confinement. Je regardais le journal télévisé, il y a un nageur, c'était un reportage sur une plage, je ne sais plus, du côté de Marseille, je crois. Il y a un nageur qui est arrêté très au large par la brigade maritime. Il est hissé sur le Zodiac. Il est en tort, hein, puisqu'il est dehors. Et il est hissé sur le Zodiac et il dit devant la caméra « Oui, je me rendais bien compte que je faisais quelque chose de pas très bien. » Et manifestement, il risquait pas d'attraper ou de transmettre le virus en nageant au large sur la côte. Que faisait-il de pas très bien? C'est quelque chose qui dépasse le virus. Il y a autre chose. Et c'est cette autre chose qui m'intéresse.
Vous expliquez que c'est un virus qui est à la fois biologique et informationnel. Par exemple, l'expression selon laquelle nous sommes en guerre contre un ennemi invisible s'est propagée partout. Au fond, vous dites Emmanuel Macron, en étant peut-être le premier à le prononcer, était en somme le patient zéro de ce virus informationnel.
Oui, alors effectivement, je pense que la viralité informationnelle, la viralité sur les réseaux sociaux a joué un grand rôle dans la peur grandissante et l'état d'esprit paradoxal dans lequel nous nous sommes mis. Alors, je m'intéresse donc particulièrement au devenir de cette phrase d'Emmanuel Macron, « Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, ce virus ». Alors, l'expression de guerre est parfois employée par des virologues. Mais cette expression exacte, il semble avoir été le premier à la prononcer et elle s'est propagée. Elle a été reprise par Boris Johnson, elle a été reprise par Donald Trump. Le président allemand lui a parlé de lutte contre le virus, contre l'ennemi invisible, avec plus de prudence. Mais ce thème guerrier est je pense, un très important pour en particulier parce que il engage à trouver des agents humains à cet ennemi invisible, des traîtres en quelque sorte, comme ce nageur qui faisait quelque chose de pas très bien.
Des gens au fond qui sont passés à l'ennemi.
Voilà, exactement. Qui seraient des agents de l'ennemi sans en avoir conscience, un peu comme dans un film de zombies. Hein, les zombies, ils sont mordus, ils deviennent eux-mêmes zombies et sans en avoir forcément exactement conscience, ils cherchent à transmettre le virus. Et je pense que Il y a cette idée d'un ennemi intérieur, même s'il est inassignable, parce que certains, évidemment, les patients ne sont pas eux-mêmes cet ennemi. Mais je pense qu'on le voit, on l'a
vu à la télévision. Vous citez cette scène aussi dans Virusland, où on voit un colonel, un militaire, à bord d'un hélicoptère faire la chasse aux promeneurs sur la plage. Et il guide les gendarmes au sol. Vous décrivez un couple, la soixantaine, qui vient d'être arrêté. Quelqu'un qui explique à côté d'eux, on descend sur la plage, on croit que c'est inoffensif, mais on touche des choses.
Voilà,
cette phrase est typique de Virusland.
Oui, et puis donc il cherche à la caméra, il cherche quelque chose que le couple aurait pu toucher. On est sur une plage déserte, il n'y a vraiment rien. Mais je pense aussi qu'il y a eu le moment où les enfants étaient regardés avec beaucoup de méfiance. Il y a un moment quand même où les enfants ont été interdits dans certains supermarchés. C'est-à-dire les parents, et ça m'est arrivé, les parents devaient laisser les enfants à la porte du supermarché. C'est une certaine violence, probablement illégale d'ailleurs. Il y a un autre moment, c'était les animaux domestiques. On a suggéré que peut-être le virus se transmettait par les animaux domestiques. Quelqu'un caresse le chien revient vers moi, toc, il me donne le virus, donc il faudrait garder les distances avec les animaux domestiques. Donc c'est vraiment l'ennemi intérieur, comme dans un film.
Vous expliquez, Pierre Cassonogas, que le confinement s'accompagne d'un imaginaire, on l'a dit, hein, la guerre contre l'ennemi invisible, mais aussi de gestes, les fameux gestes barrières, qui ne sont d'ailleurs pas des gestes barrières. Hein. On ne se serre plus la main, on ne s'embrasse plus, on s'évite, on s'éloigne. Ce ne sont pas des gestes barrières à proprement parler. Ça aurait été quoi un vrai geste barrière ? Ben, y a le fait de se laver les mains, mais à part ça...
Oui, donc dans une scène du livre, j'imagine les gens se protégeant dans la queue par des gestes plus offensifs. Les gestes barrières sont effectivement...
Des gestes de karatéka.
Voilà.
Quoi.
Les gestes barrières, en réalité, sont une absence de gestes, mais voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important et plus large même que le virus, cette réticence au contact. Et pour moi, elle est liée aussi aux nouvelles technologies et à toute une perception et des relations sociales que nous pouvons avoir à distance et qui peut-être même rendent seul imaginable le confinement tel que nous l'avons vécu, c'est-à-dire ces apéritifs sur les applications à distance, et bien peut-être qu'elles rendent vivables ceux qui autrement auraient été invivables. Donc pour moi, il y a plus largement même que le virus, hein, il y a une transformation de la relation humaine, une absence de contact à cause ou grâce peut-être aux nouvelles technologies.
Virusland est à la fois très drôle et très angoissant. Ça ressemble à un roman et pourtant c'est la réalité. On voit bien d'ailleurs qu'il est de plus en plus difficile de distinguer la réalité et la fiction dans Virusland. Les deux s'entremêlent. Hein. La réalité elle-même a pris un tour irréel. Vous décrivez vos voisins qui laissent les cartons de livraison posés devant leur maison. Ils viennent chercher les provisions une à une et ils les nettoient avec une lingette. Vous montrez aussi une autre voisine qui vous regarde d'un mauvais œil et qui vous dit « Le soir, nous, on applaudit ». Sous-entendu, vous n'applaudissez pas.
Oui, c'était en fait, je me demandais si je devais applaudir ou pas, et qu'en bon philosophe, j'étais un peu perdu dans ce dilemme. Et donc, je n'avais pas encore commencé à applaudir, puisque je n'avais pas décidé, j'avais pas pris de décision, mais c'était de l'hésitation. Évidemment, une fois qu'elle m'a dit « Nous, on applaudit », du coup, c'était interdit d'applaudir.
Vous êtes interdit d'applaudir, vous n'avez pas...
Je ne voulais pas me conformer à cette injonction de la voisine d'applaudir, oui. Mais sur la fiction, oui, je pense que c'est une difficulté à écrire, en fait, sur cette période, qu'elle ressemble tellement à une fiction que c'est comme si la réalité faisait déjà le travail de l'écrivain. Elle était devenue étrange, ce qui fait que l'écrivain n'aurait plus qu'à retranscrire ce qui se passe, ce qui n'a pas d'intérêt, puisque chacun le vit. Et donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir d'emblée d'une fiction, un pays qui n'existe pas, Virusland, et dans ce qui se donne explicitement comme une fiction, et en reprenant les codes de la fiction, d'essayer de montrer qu'en fait, c'est bien la réalité.
Et d'ailleurs, vous êtes rattrapé à nouveau par la réalité et par la fiction, puisque maintenant, il y a le couvre-feu, et qu'au fond, la nuit a remplacé la plage. Pendant tout le confinement, vous étiez confiné dans une station balnéaire. Il y avait la plage devant vous, vous n'y aviez pas droit. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit à la nuit.
Oui, je pense que vous avez raison. La nuit a remplacé la plage ou d'ailleurs tous les espaces naturels qui étaient également interdits. Et justement, le préfet de Paris, le préfet Lallemand, au début du confinement, expliquait au journal télévisé, disait « il faut interdire aux gens d'aller là où ils ont envie d'aller ». Et l'idée étant que si on n'a plus nulle part où on a envie d'aller, on va finir par rester chez nous.
Il a de même interdit, il y a peu, avant même le couvre-feu, il avait interdit la diffusion de musique dans la rue. C'est-à-dire qu'on se souvient, pendant le confinement, les gens mettaient de la musique et dansaient ou chacun sur leur balcon. Là, tout à coup, ça devenait interdit de 20h à 6h du matin de passer de la musique.
Pour moi, effectivement, dans le couvre-feu, il y a un aspect moralisateur qui est évident. J'entendais, c'était le maire de La Rochelle qui était interviewé. Le journaliste lui demandait « Mais alors, est-ce que la police va vérifier que dans les locations, il n'y a pas trop de monde et que les soirées ne sont pas arrosées ?» Le sandwich m'en est tombé des mains. D'abord, pourquoi dans les locations particulièrement ? Enfin, est-ce que le virus...
Parce que c'est les vacances de la Toussaint et, oui, et La Rochelle est une ville qui attend des touristes.
Non, j'avais compris ça aussi, mais est-ce que le virus se transmet plus rapidement chez les locataires que chez les propriétaires ?
Parce qu'ils arrivent de la grande ville et que donc ils sont suspects d'être infectés. Vous le racontez d'ailleurs, il y a eu beaucoup ça pendant le premier confinement. On suspectait les Parisiens d'infecter la France entière.
Et puis, le deuxième aspect, c'est que jusqu'à présent, on a quand même le droit de boire avec ses quatre amis chez soi. S'il reste dormir, on peut boire. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Et certainement, on nuit à sa santé, on nuit à celle de ses proches. Mais voilà, si l'État doit décider d'interdire l'alcool et le tabac qui font chaque année, l'alcool c'est 70 000 morts, le tabac 90 000 morts, donc beaucoup plus que le virus, l'État considère quand même qu'on a le droit de boire et de fumer du tabac chez soi. Et l'interdire, c'est une transformation de la société. Et de la même façon, voilà pourquoi il est interdit de se promener dans une rue déserte à 2 heures du matin. Clairement, le couvre-feu ne fait que croiser partiellement les enjeux sanitaires. Et il y a autre chose qui s'y joue. Et pour moi, ce qui s'y joue, c'est d'abord le retour du thème guerrier sécuritaire dans la question sanitaire. Et ensuite, quelque chose effectivement qui semble relever d'une sorte de morale.
Et de cette étrangeté qui est la caractéristique principale de Virusland.
Effectivement, il y a une étrangeté, mais je pense que dans le couvre-feu, c'est quand même faire appel non seulement à des films et à la fiction, mais c'est faire appel à toute une série de connotations historiques du couvre-feu. Le couvre-feu, c'est ce qui est décrété en temps de guerre, en temps d'émeute, dans des situations d'extrême urgence où il s'agit de protéger la nuit le citoyen et le bon citoyen contre un ennemi qui rôde.
Sont peut-être les jeunes qui ont remplacé les enfants qu'on interdisait dans les magasins au début du confinement.
Oui, ou le noctambule, quel que soit son âge. Mais enfin, c'est le retour de l'agent humain du virus. Et je trouve, oui, voilà, que c'est non seulement étrange, mais inquiétant.
C'est étrange, c'est inquiétant, mais c'est aussi très drôle. Ça s'appelle Virusland. C'est le livre de Pierre Kasounoguès qui vient de paraître aux éditions du Cerf.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain.